Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Dienaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France, adjointe au maire des Mureaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Dienaba Diop, pour commencer, quelle est votre réaction après la réélection d'Emmanuel Macron? Je rappelle que le PS avait appelé sans ambiguïté à voter pour lui pour faire barrage à l'extrême droite.
Eh bien, je crois que comme la majorité de nos concitoyens, d'abord c'est le soulagement. Parce que dimanche soir, c'est la République qui a résisté, c'est la République qui a tenu bon. Et puis, comme vous l'avez justement rappelé, nous n'avons pas voté pour Emmanuel Macron, nous avons voté contre Marine Le Pen. C'est-à-dire que nous ne voulions pas prendre le risque de voir arriver au pouvoir l'extrême droite. Donc nous avons fait notre devoir, nous avons fait barrage.
Vous avez eu peur à un moment donné, au cours du week-end, l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen vous a traversé l'esprit?
Oui, je crois que comme nous tous, on s'est dit que ça n'était pas gagné. C'est pour ça que nous avons appelé sans ambiguïté à utiliser le bulletin d'Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Parce que s'abstenir ou voter blanc ne permettait pas de s'assurer d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et moi, je vous avoue que j'ai un grand sentiment d'inquiétude et puis aussi un peu de honte de me dire que l'extrême droite est à 42% dans notre pays. En 2002, je me rappelle, lorsque Jean-Marie Le Pen était qualifié au second tour, nous étions plus d'1,5 million dans la rue à manifester. Et c'est la première fois de ma vie que je votais à droite et je votais justement contre Jean-Marie Le Pen avec le bulletin de Jacques Chirac, parce que je voulais qu'il ait le score le plus faible possible. Et d'ailleurs, même Jean-Luc Mélenchon, je me rappelle, disait il faut aller voter Jacques Chirac pour qu'il ait le score le plus faible. On était à 17% à l'époque. On avait en horreur le fait qu'il puisse se qualifier pour le second tour. Aujourd'hui, on a banalisé le fait que l'extrême droite puisse être présente au second tour des élections. On s'y est habitué. Et moi, je crois que c'est dangereux que notre République s'habitue à ce type de situation.
Comment expliquez-vous, Dienaba Diop, le score de Marine Le Pen, qui est arrivée en tête dans 28 départements français, notamment dans les DOM-TOM?
Je crois que la situation des DOM-TOM s'explique assez facilement. C'est que ce qu'ils vivent au quotidien n'est pas digne de la République. Vous avez des territoires, quand on parle de territoires en dehors de la République, moi je crois que ce sont les grands oubliés de la République, nos concitoyens ultramarins. Quand on voit les prix, nous on a juste un exemple ces derniers temps avec le prix de l'huile qui a flambé, avec le prix de l'essence. Dans les Outre-mer, c'est leur quotidien. Quand on voit le scandale de la chlordécone, quand on voit comment ils ont été... comment ils ont été abandonnés, pourquoi au niveau de la vaccination, la défiance qu'il y a envers le gouvernement. Moi, je crois que plus qu'un vote d'adhésion, c'était un vote de colère, un vote de barrage à Emmanuel Macron.
Oui, parce qu'au début, ils ont voté, au premier tour, ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Ce vote s'est transformé en vote Marine Le Pen.
Ben, parce qu'en fait, ils voulaient d'abord, c'est un peuple de gauche, ce qu'ils voulaient, c'était ni de l'extrême droite, et ils voulaient changer de président de la République. Et lorsqu'ils ont vu que la gauche n'était pas présente au second tour, eh bien, il y a ce vote de révolte, parce qu'ils se disent, ils se sentent abandonnés. Je crois que nos concitoyens de métropole n'ont pas idée de ce que peuvent vivre nos concitoyens ultramarins. Et je crois que c'est de la responsabilité urgente du président Macron que de veiller à ce que cette situation s'améliore dans les plus brefs délais.
Alors qu'attendez-vous aujourd'hui d'Emmanuel Macron, Dienaba Diop? Est-ce qu'il doit nommer un ou une premier ministre issue de la gauche? Est-ce qu'après un premier quinquennat plutôt à droite, il doit mettre un coup de barre à gauche pour ce deuxième quinquennat?
Moi, je vous avoue que je n'attends pas grand-chose, parce que déjà quand j'ai vu son arrivée au Champ de Mars et c'est... Et le comportement de ses supporters, alors que notre pays voit le score le plus important qu'ait jamais connu l'extrême droite, je crois qu'un peu d'humilité serait la bienvenue. dans les rangs de la du gouvernement. Deuxième chose, il a beaucoup musclé sa jambe droite, vous l'avez dit. Ça a été vraiment à droite toute, surtout même sur la fin de son quinquennat. Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi importantes. Moi, j'ai peur d'une vraie déflagration sociale au moment de la rentrée si les législatives ne permettent pas de rééquilibrer un petit peu l'Assemblée nationale avec des députés de gauche qui permettent justement de redire l'urgence sociale, de redire le fait que l'éducation va mal, de redire qu'il faut du service public de proximité. C'est une des choses dont le souffrent le plus, justement, par exemple, les territoires d'outre-mer. Moi, je crois sincèrement que nommer un premier ministre de gauche, j'y crois peu. Et sincèrement, je ne vois pas comment quelqu'un qui a des convictions de gauche pourrait accepter d'être le premier ministre d'Emmanuel Macron, qui est clairement à droite. Il n'y a plus aucune ambiguïté sur le sujet. Donc non, je crois que le seul moyen, c'est d'envoyer des députés de gauche nombreux à l'Assemblée nationale.
Alors justement, Dienaba Diop, en 2017, les législatives avaient été gagnées haut la main par La République En Marche. Les inconnus sont devenus députés parce qu'il y avait la photo d'Emmanuel Macron à côté d'eux. Vous avez le sentiment que les législatives de juin prochain seront plus difficiles pour le président réélu?
Ah oui, déjà c'est un président qui a été mal élu. C'est-à-dire que il faisait 66% il y a 5 ans. Là, il en fait 58. C'est 2 millions de personnes en moins qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et c'est surtout un nombre croissant de Françaises et de Français qui ne vont même plus aux urnes.
Oui, parce que si on additionne les bulletins blancs, les abstentionnistes, ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, finalement, vous avez le sentiment que Emmanuel Macron n'a pas fait l'unanimité, même s'il a été réélu.
Non, et puis c'est le système de la Ve République qui veut ça, c'est-à-dire que c'est celui qui arrive en tête des suffrages exprimés qui est élu. Mais je crois que le taux d'abstention record, le fait que beaucoup se déplacent, plus de 3 millions de personnes se sont déplacées pour mettre un bulletin blanc ou nul. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont plus convaincus que nous sommes, que le gouvernement actuel est en capacité de faire quoi que ce soit.
Dans les quartiers populaires, vous avez senti aussi une grande déception, vous qui êtes élu au Murau?
Évidemment, moi j'ai été plutôt confiante parce que nos jeunes dans les quartiers populaires se sont beaucoup déplacés au premier tour, comme ils l'avaient fait en 2012 avec François Hollande. Malheureusement, l'essai n'a pas été transformé. Personne à gauche n'a franchi la barre du second tour. Et c'est une énorme déception. Quasiment dans les quartiers populaires, on a entre un tiers, voire jusqu'à 45% de votants en moins au second tour, parce qu'ils se sont dit à quoi bon. Ils ne sont même pas venus faire barrage à l'extrême droite.
Ces jeunes des quartiers populaires, ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, car c'était celui qui incarnait le mieux leurs aspirations.
C'est surtout celui qui apparaissait comme le seul étant capable d'accéder au second tour. Moi, j'ai beaucoup discuté avec eux. Ils m'ont dit, nous, on voulait faire barrage à Éric Zemmour, aux idées racistes, xénophobes de Marine Le Pen. On voulait pas de l'extrême droite au second tour. Et puis, on voulait changer de président parce qu'ils sont pas du tout contents du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils ont été oubliés alors qu'au début, Emmanuel Macron disait qu'il allait aller chercher les talents dans les quartiers populaires. 5 ans après, force est de constater que c'est absolument pas ce qui s'est passé. On est dans une situation où il y a beaucoup de précarité, où effectivement les chiffres du chômage ont baissé, mais ils ont été remplacés par des contrats précaires, des CDD, des salariés de plateformes comme Deliveroo, etc., qui exploitent beaucoup de nos jeunes et qui les mettent dans une proposition où le travail ne paie pas.
Alors, malgré le faible score d'Anne Hidalgo au premier tour de l'élection présidentielle, avez-vous le sentiment, Dienaba Diop, que les valeurs socialistes restent fortes en France?
Évidemment, la preuve en est, c'est que les valeurs de justice sociale, les valeurs justement d'émancipation par l'école, les valeurs républicaines d'égalité et de fraternité, ça c'est le socle universel de la France. Et la France sans la gauche, sans le socialisme, sans tout ce qu'elle a apporté en termes d'acquisition de droits, ça n'est pas la France. On sait très bien que les plus grandes réformes sociétales, les plus grands acquis sociaux, on les doit à la gauche et aussi notamment au socialisme. Donc je n'ai aucune inquiétude sur le fait que les valeurs, elles sont là, elles sont ancrées. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on a un problème d'incarnation. C'est ça notre souci, c'est que comment celles et ceux qui nous font confiance dans les élections intermédiaires, dans les municipalités, dans les départements, dans les régions, on est la première force de gauche, ne retrouvent pas cet élan au niveau national. Et ben c'est un problème d'incarnation. Il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui d'avoir une incarnation de ces valeurs.
Vous avez été porte-parole d'Anne Hidalgo avant le premier tour. Comment vous expliquez sa large défaite? C'est de la faute de la candidate, c'est de la faute du Parti Socialiste, c'est le sens de l'histoire. Comment vous l'expliquez?
Moi d'abord, je voudrais rendre hommage à Anne Hidalgo qui a été une candidate courageuse, quelqu'un qui a défendu avec force et conviction toutes les valeurs que nous portons. Elle a été la première à parler du pouvoir d'achat, la première à dire qu'il fallait baisser les taxes justement sur les énergies, notamment sur l'essence, etc. Moi, je crois que ce n'est ni la faute du Parti Socialiste, ni la faute d'Anne Hidalgo, c'est simplement que nous sommes dans une société qui a besoin de radicalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la radicalité ou dans la rupture, vous n'êtes pas entendu. J'en veux pour preuve que ce qui s'est passé sur cette élection, c'est que les trois premiers ont polarisé 70% des suffrages.
C'est du jamais vu.
C'est du jamais vu. C'est-à-dire que on a une tripartition en fait de notre société. Il y a un bloc très libéral, centre droit, droite, qui a absorbé la droite républicaine de Valérie Pécresse, etc. Et encore la droite républicaine, Le bloc Marine Le Pen, les gens ont voté aussi utile, c'est-à-dire que les gens de chez qui étaient plutôt des Zemmour ou des gens de chez Ciotti, la branche Ciotti des Républicains, ont voté pour Marine Le Pen. Et puis la gauche, dans sa quasi-totalité et dans un seul élan, pour pouvoir faire barrage à ces deux autres blocs, a dit Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé au rythme des sondages, etc., et a voté pour Jean-Luc Mélenchon. Donc je crois que c'est pas une question de quel que soit le candidat. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une incarnation forte, si vous n'êtes pas dans la radicalité, si vous n'êtes pas dans la punchline, si vous avez un discours raisonnable, vous n'êtes pas entendu.
Vous vous en désolez, j'imagine.
Oui, je m'en désole parce que je crois que nous n'avons pas eu un vrai débat politique. Et moi, c'est ce qui me désole le plus. Si on a un tel clivage, une telle déception, c'est-à-dire que normalement, quand on élit un président, on devrait être à la fête. Non, on est dans la résignation parce qu'on a fait notre devoir républicain.
Il n'y a pas eu de fête dimanche soir à part
les supporters, le champ de Mars. Il n'y a pas eu de fête. Moi, je me rappelle des victoires, qu'elles soient à gauche ou à droite,
Jacques Chirac,
il y avait une vraie liesse populaire où les gens se disaient voilà, on a élu notre président. Et même en 2017, lorsque Emmanuel Macron accède à la présidence, il y a quand même un vent d'espoir de dire, bon, peut-être, il est ni de gauche ni de droite, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se lever. 5 ans plus tard, tout ça est anéanti et la France n'a jamais été aussi fracturée.
Alors, on est mardi, Dianaba Diop, je sais qu'il y a des tentatives de rapprochement entre le Parti Socialiste et d'autres partis de gauche, dont la France Insoumise. Est-ce qu'une alliance de tous les partis de gauche vous semble envisageable pour les élections législatives?
Nous l'appelons de nos voeux. Le Parti Socialiste a voté une résolution il y a une semaine, justement, pour dire que nous n'y arriverons pas seuls, et qui que ce soit. Et c'est pas une question de ni LFI, ni du PC, ni de Génération, ni d'Europe Écologie Les Verts. Si nous ne voulons pas que la gauche disparaisse de notre pays, aujourd'hui, il faut discuter. Comme nous le faisons lorsque nous faisons des alliances sur les départementales, sur les municipales et les régionales, on dirige ensemble le quotidien des Françaises et des Français. Eh bien, au niveau national, on doit le faire pour les législatives.
Donc il faudra un candidat de gauche au premier tour dans les 577 circonscriptions.
C'est ce que nous espérons, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons en capacité de présenter dans chaque circonscription, je l'appelle de mes voeux, un seul candidat de gauche si nous voulons espérer avoir une représentation suffisante à l'Assemblée nationale.
La France Insoumise souhaite être majoritaire dans ce rassemblement de gauche. Ça, vous pouvez l'accepter?
Je crois que les résultats montrent qu'effectivement, il y a une dynamique du côté de la France insoumise. Mais la France insoumise ne doit pas oublier aussi que nous sommes la force principale dans les territoires. Et on doit tenir compte de ça. Parce que les gens, quand ils votent aux législatives, ils votent pour une personnalité qu'ils connaissent, quelqu'un de proximité. Donc je crois qu'on a besoin de toutes les forces.
Dernière question, Diana Badiop. Vous croyez au troisième tour promis par Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de ces élections législatives? Il peut y avoir une cohabitation à gauche?
Moi, je crois que c'est compliqué lorsqu'on est juste après les élections présidentielles. Ça, c'est jamais vu. À chaque fois qu'on a eu une cohabitation, elle est arrivée pendant le septennat et elle est arrivée après un bilan, etc. Mais en tout cas, on peut faire le pari que on peut envoyer un maximum de députés à gauche. Mais il faut pas oublier que si on fait le total gauche, le total extrême droite et le total Emmanuel Macron, la gauche n'est pas majoritaire. Donc faisons le maximum pour être présent et pour lutter pour les plus fragiles et les protéger de ce quinquennat qui va être très dur.
Merci Diana Badiop. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France et adjointe au maire des Mureaux. Bonsoir.
Bonsoir et merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.